franceinter.fr.
Le journal, c'est vous, Sébastien Paour. Bonsoir, Sébastien.
Bonsoir à tous. Des détails sur les 5 chantiers prioritaires de la justice à la une ce soir en pleine journée. Prison morte après l'agression de Vendin le Vieil. Nicole Belloubet doit aller sur place demain ou après-demain. Mathieu Gallet, condamné à 1 an de prison avec sursis pour favoritisme quand il dirigeait l'INA. Le PDG de Radio France fait appel. Ils étaient veufs et riches. Elle les séduisait pour leur argent. 2 sont morts empoisonnés. Témoignage au procès de la veuve noire dans ce journal. Au sommaire également ce soir, Alain Juppé, un pied hors des Républicains, le parti de Laurent Wauquiez minimise. L'A380 d'Airbus à la merci des commandes d'Emirates. L'arbitre tacleur écarté des terrains. La mort de la chanteuse des Cranberries. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien au téléphone sonne ce soir, quelle boussole pour le PS, quelle base idéologique, quel candidat donc pour repartir. Ils sont 5. Avoir fait acte de candidature, 4 hommes et une femme, reste à savoir ce qu'on met dans les motions. C'est ce qui commence à se discuter 3 mois avant le congrès. Le PS donc bouge encore, mais quelle ligne, quel nom et quelle adresse aussi. 01 45 24 7000.
France Inter.
Les chantiers de la justice étaient donc présentés en pleine opération prison morte, des blocages et des débrayages dans les 2 tiers des 188 prisons françaises pour protester contre l'agression de 3 gardiens jeudi dernier par un djihadiste. Il est présenté à un juge antiterroriste et devrait être mis en examen. La garde des Sceaux comprend le mouvement, elle sera donc demain ou après-demain à Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais, lieu des agressions dont le directeur a démissionné. Et en attendant, Nicole Belloubet détaillait la consultation sur les 5 chantiers prioritaires de son ministère. Cet après-midi, bonsoir Corinne Audouin.
Bonsoir Sébastien.
Des pistes dont le gouvernement s'inspirera pour une loi au printemps.
Oui, les chefs de file des 5 chantiers ont carburé depuis 3 mois pour livrer une liste de propositions en forme d'inventaire à la Prévert avec ce mot d'ordre très macronien. Il s'agit d'être pragmatique et efficace. Alors on retiendra l'idée du dossier numérique unique. L'ambition, c'est d'abandonner le papier pour les procédures judiciaires avec pour horizon l'année 2020. Sur la réforme de la carte judiciaire, source de grande inquiétude dans les villes moyennes qui craignent de perdre leur tribunal, les rapporteurs ne préconisent aucune fermeture de cour d'appel, mais la création d'une sorte de super cour d'appel par région avec une spécialisation selon les contentieux pour les autres. Chantier le plus polémique enfin, le sens de la peine. Ici, les suggestions sont à la fois de faire exécuter plus rapidement les peines de plus en ferme et en même temps de ne plus prononcer de courtes peines. En dessous de 6 mois, suggèrent les rapporteurs, la peine de prison devrait s'exécuter en semi-liberté ou sous bracelet électronique. Alors la ministre va maintenant lancer une concertation sur ses propositions pour aboutir à une loi au printemps prochain. Et c'est étonnamment, citant François Mitterrand, que Nicole Belloubet a conclu cet après-midi. Aucune volonté n'est de trop, a-t-elle dit, ajoutant « Je compte sur chacun d'entre vous pour changer la justice ».
Corinne Audouin, en direct du ministère de la Justice, place Vendôme à Paris, avec Arthur Gerbeau. Merci à tous les deux.
Le PDG de Radio France, condamné à 1 an de prison avec sursis.
Condamnation pour favoritisme, qui lui vaut aussi 20 000 euros d'amende. Mathieu Gallet fait appel. Les faits remontent à l'époque où il dirigeait l'Institut National de l'Audiovisuel. Bonsoir Jean-Philippe Dognaud.
Bonsoir Sébastien.
Il aurait favorisé 2 sociétés de conseil auxquelles l'INA a fait appel sous sa présidence.
Oui, avec des contrats litigieux qui avoisinaient au total plus de 400 000 euros, contrats pour lesquels la justice lui reproche donc de ne pas avoir respecté la réglementation des marchés publics. Le tribunal a constaté que les faits étaient graves, commande ce soir l'avocat de l'association Anticor, qui est à l'origine de la plainte, maître Jérôme Carcenti.
Nous avions déposé une plainte sur les malversations commises au sein de l'INA. Et le tribunal vient de nous donner raison et vient d'accorder quand même, ce qui est important sur le plan symbolique, hein, une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à Anticor, c'est-à-dire le maximum de ce que j'avais demandé.
Alors à l'audience, il y a 2 mois, Mathieu Gallet avait expliqué qu'il n'avait aucune connaissance de ces questions de marché public et qu'aucun membre de son équipe ne l'avait alerté à l'époque. Immédiatement après la lecture du jugement cet après-midi, son avocat Christophe Ingrin a donc fait appel et il s'en explique à Florence Sturm.
Cette décision, elle est tout sauf une surprise. De toute façon, dès lors qu'elle déclare la culpabilité de Mathieu Gallet, elle est trop importante et pas acceptable. Lors de l'audience, différents témoins se sont succédés qui ont démontré combien cette enquête était incomplète et combien le sens qui lui était donné n'était pas conforme à la réalité des faits.
Évidemment, Mathieu Gallet ne démissionnera pas de Radio France, ajoute Maître Ingrain. La Cour d'appel de Paris, elle, réexaminera l'affaire dans environ un an.
Le mandat de Mathieu Gallet court jusqu'en mai 2019 à la tête de cette maison Radio France. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique saisit la justice au sujet du patrimoine de David Douillet, l'ancien judoka et député LR. Il aurait omis de déclarer une partie substantielle de son patrimoine à la fin de son mandat de député. Elle est surnommée la veuve noire de la Côte d'Azur ou l'empoisonneuse. Le procès de Patricia Dagorn s'est ouvert aujourd'hui à Nice. La quinquagénaire est soupçonnée d'être venue sur la Méditerranée pour escroquer des veuves. Deux d'entre eux sont morts en 2011, deux autres en ont réchappé, mais de justesse, comme Robert Vaux, ancien marin à la retraite confortable.
Je ne marchais pas. Alors évidemment, pour faire craquer, elle droguait son monde. J'ai vu un flacon de Valium à la cuisine. Elle me disait, oui, mais c'est pour dormir. Or, c'est pas vrai, elle dormait à poil fermé, hein. Donc c'est pour tellement empoisonné. Le Valium, c'est un liquide qui est incolore, inodore, sans saveur, qui peut être mortel, hein. Ça agit sur le cœur, les gens me voyaient dépérir. Mes amis, ils ont prévenu mon docteur. Là, évidemment, j'ai appris que j'étais en danger de mort.
Et vous vous sentiez comment?
Comme un drogué, bien. Comme un drogué, bien. Je ne me rendais pas compte, c'est ça. Le pire, voilà, c'était à la fin, quand elle a senti que j'allais très très mal, elle pensait que j'allais y passer. Dans la même semaine, elle a écrit deux lettres pour demander être légataire universel, avoir la gestion de tous mes avoirs, bancaires et tout, et la jouissance de mon appartement. Et comme elle trouvait que ça n'allait pas si vite, dans la même semaine, en plus des deux lettres qu'elle a écrites, elle a envoyé un fax.
Là, vous attendez quoi du procès?
Bon, je m'en suis sorti. J'ai pas d'haine, j'ai gagné. J'ai pas de haine, hein. Je suis vivant, j'ai gagné. Elle, elle est à terre.
L'octogénaire Robert Vaux au micro de Marion Chantreau, lui, témoignera demain au procès. L'audience de cette première journée, Marion, était consacrée à la personnalité de l'accusé.
Dans le box, Patricia Dagorn apparaît comme une femme frêle, cheveux mi-longs, grisonnants, vêtue d'un blouson de sport. L'enquêteur de personnalité explique à la barre qu'elle se présente comme une femme d'affaires, bijoutière ou diamantaire, qui bouillonne de projets, d'ambition pour faire fortune. Décrite comme peu maternelle, elle a fait placer ses enfants en foyer. Après des années de galère auprès d'un ex-mari condamné pour violence envers elle, elle se réfugie pendant 15 ans dans un presbytère du Gers. Elle tente en 2010 de refaire sa vie sur la Côte d'Azur, erre dans des centres d'accueil, s'inscrit dans une agence matrimoniale et noue des relations avec des hommes âgés, vulnérables, de la part desquels elle tente vite d'obtenir de l'argent. En parallèle, elle leur fait ingérer à leur insu des médicaments, rédige de faux testaments en sa faveur. Les policiers qui ont mené l'enquête parlent d'une calculatrice, une manipulatrice, qui vit dans le déni de ses crimes qu'elle reporte sur ses victimes. Elle accuse certaines de ses conquêtes de viol durant sa garde à vue et continue de nier farouchement tout empoisonnement. Marion Chantreau, France Bleu Azur pour France Inter.
Il est 19h08 sur France Inter. Alain Juppé s'éloigne encore un peu plus des Républicains et de son président trop à droite pour lui, Laurent Wauquiez.
Le maire de Bordeaux quitte la présidence de la Fédération LR de Gironde et ne paiera pas sa cotisation au parti cette année comme l'an dernier. Celui qui fait partie des fondateurs de l'UMP, devenu les Républicains, n'est pas en marche. Pour autant, je prends du recul, je veux être libre, explique Alain Juppé. Chez LR, on fait mine de ne pas s'inquiéter au lendemain du départ de l'ancien ministre Dominique Bussereau. Voici Gilles Platon, le porte-parole du parti au micro d'Estelle Schmitt.
Moi, je n'ai pas entendu le mot de départ de la part d'Alain Juppé. Le départ, il a été acté pour Xavier Bertrand, par exemple. Ni Dominique Bussereau, ni Alain Juppé n'ont dit qu'il partait des Républicains. Le retrait, ça veut dire qu'on est prêt, à un moment donné, à revenir dans le jeu. Sinon, on part. Et nous ne le souhaitons absolument pas. Nous leur disons, dans ce dialogue respectueux que nous avons vis-à-vis de ces deux personnalités de notre mouvement, venez au contraire participer à ce débat, parce que c'est la seule manière de faire entendre votre voix. Il n'y a pas une ligne qui soit d'ores et déjà arrêtée sur la façon dont nous allons aborder l'échéance européenne. En tout cas, il y a quelque chose à construire. Et nous avons besoin de tous pour construire. Donc ça ne nous effraie pas, et nous estimons en tout cas que les conditions même du débat qui va s'engager permettra à ces personnalités de se prononcer, et nous en tiendrons compte.
Le départ d'Alain Juppé est le coup de grâce porté à la formation de Laurent Wauquiez pour la patronne du Front National, Marine Le Pen, qui ne souhaite pas par ailleurs conduire la liste FN aux européennes. Le FN confronté à un pique-nique de protestation ce midi à Beaucaire, dans le Gard, une centaine de personnes avec soupe et pizza, pour protester contre la décision du maire Julien Sanchez de supprimer les menus sans porc dans les cantines scolaires. Reportage pour Inter, Sylvie Duchesne de France Bleu Gard-Lozère.
Sur la place de la mairie, de nombreuses mamans venues avec leurs enfants à la sortie de l'école.
Ce que je n'admets pas, c'est qu'on oblige les enfants à avoir quelque chose dans l'assiette que les parents n'ont pas pour valeur éthique, religieuse ou autre, envie que leurs enfants mangent.
Les arguments du maire de dire que les repas de substitution, c'est anti-républicain, ça veut dire que pour être républicain, il faut manger du cochon.
J'ai l'impression qu'il veut faire le buzz, il veut se faire connaître. En vrai, j'en suis sûre qu'il s'en tape complètement de menu.
Ce qui inquiète le plus ce Beaucairois, c'est le climat qui risque à terme de s'installer en ville.
Moi, ça fait 45 ans que je suis là, on n'a jamais eu de problème. Ça change avec lui, ça change énormément. C'est en sorte de créer des amalgames. Il n'y a aucune chose qui nous partage, ce qu'il y a, c'est le cœur.
Depuis son bureau, le maire observe serein, rien ne le fera changer d'avis, et certainement pas les parents qui l'accusent avec cette mesure de sanctionner les enfants.
Mine de rien, on introduit un interdit religieux dans l'école, en mettant des enfants en avant. Hein. Ils sont mignons, ils sont jolis, ils sont tous beaux les enfants. Mais je crois que c'est l'intrusion du fait religieux qui n'est pas belle, et ça, on le doit aux parents. C'est eux qui prennent en otage les enfants, c'est pas le maire de Beaucaire.
Aucun recours n'a pour l'instant été déposé par les parents.
Et en dessert, le maire de Beaucaire a offert des galettes des rois, payées, assure-t-il, sur ses propres deniers. Elle veut changer le système d'un parti devenu une petite mafia politique. Delphine Bateau est candidate à la tête du PS. La députée Nouvelle Gauche des Deux-Sèvres est la cinquième à se lancer dans la course au fauteuil de premier secrétaire du Parti Socialiste. Julien Drey pense sérieusement à se présenter.
Et on y revient tout de suite d'ailleurs, dans le téléphone sonne Sébastien. Airbus, une nouvelle fois devant Boeing.
Derrière pour les livraisons, mais devant en commande l'an dernier, plus de 1100 pour l'avionneur européen. 200 de moins pour son concurrent américain, mais l'A380 est mal en point, qui ne rencontre pas le succès. Et son directeur commercial John Lee prévient, Emirates détient la clé de l'avenir de l'A380. Il le dit à Stéphane Iglesias.
Nous discutons toujours avec Emirates, mais tout à fait honnêtement, ce sont probablement les seuls à avoir la capacité sur le marché actuel de commander 6 à 380 par an sur une période de 8 à 10 ans. On peut peut-être en ajouter quelques-uns en plus. Donc, tout à fait honnêtement, si nous ne concluons pas de vente avec Emirates, on n'aura pas d'autre choix que d'arrêter le programme de l'A380. Et en même temps, tous les 15 ans, le trafic aérien double. Donc si les gens veulent voler, ils devront emprunter de plus gros avions, et ça tombe bien, car nous avons l'avion qu'ils veulent emprunter, mais bien sûr, nous devons aller d'aujourd'hui à demain, et donc nous discutons avec quelques compagnies aériennes clés qui nous permettront de passer ce cap difficile. Fabrice Brégier a parlé de 6 à 380 par an, nous avons besoin de quelque chose comme ça, peut-être 6 à 8, et nous pouvons conserver ce niveau de production jusqu'à ce que le marché redémarre. Et j'aimerais qu'on en revienne évidemment à 25 à 380 par an, mais ça va prendre quelques années de plus pour en arriver là.
La compagnie du Golfe Emirates est le plus gros acheteur de l'A380 qui s'est vendu à 317 exemplaires depuis son lancement il y a 10 ans, trois fois moins que prévu. Des difficultés aussi chez Europa Corps, la société de production de Luc Besson, qui va supprimer 22 emplois sur 79 en France. Son film Valérian n'a pas permis de renflouer les caisses, mais il permet au réalisateur d'être le mieux payé pour un film français en 2017. Luc Besson a touché 4 400 000 euros pour son film de science-fiction à gros budget.
Mariano Rajoy prévient.
La Catalogne restera sous tutelle de Madrid si Carles Puigdemont veut la diriger depuis Bruxelles. Les séparatistes ont remporté les régionales de fin décembre et l'ex-président déchu de la région menace de reprendre ses fonctions depuis son exil belge. À Madrid pour Inter, Marie-Hélène Ballestero.
Plus que 48 heures avant la séance inaugurale du Parlement de Catalogne. Un premier pas normalement avant la levée de la tutelle imposée à la région par Madrid après la proclamation unilatérale d'indépendance fin octobre. Mais vu le contexte, rien n'est moins sûr. Devant les dirigeants du Parti Populaire, le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy a lancé aujourd'hui un message très clair aux indépendantistes catalans et à Carles Puigdemont, toujours en fuite à Bruxelles.
Un président doit comparaître devant le Parlement. Il doit comparaître pour demander leur vote aux députés s'ils se présentent comme candidats. Mais il doit également comparaître pour se soumettre au contrôle des députés. Quelqu'un de sensé peut-il imaginer que le président du gouvernement espagnol, moi-même, puisse décider de ne pas comparaître devant le Congrès car il préfère le faire via visioconférence ? Et s'il me pose des questions ou s'il présente une motion de censure, eh bien je n'y vais pas et je règle tout à travers la télé. Ce n'est pas seulement un problème politique et juridique, mais c'est un problème de bon sens.
L'autonomie de la Catalogne restera sera donc suspendue si Puigdemont tente de la diriger depuis Bruxelles. Rajoy a été très clair aujourd'hui. La balle est dans le camp des indépendantistes catalans et de Puigdemont. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
L'environnement avec l'autre projet du gouvernement qui connaît une forte opposition, comme Notre-Dame-des-Landes, Cigéo, le centre d'enfouissement de déchets radioactifs prévu à Bure dans la Meuse, destiné à stocker à 500 mètres sous terre 80 000 mètres cubes de déchets produits par les centrales nucléaires françaises. L'ASN, le gendarme du nucléaire, vient de rendre son avis sur le volet sûreté du projet. Et c'est un oui mais, Sandy Dauphin.
L'autorité de sûreté nucléaire estime que le projet Cigéo atteint une maturité technique satisfaisante. Mais dans son avis, l'ASN émet une réserve sur le risque incendie de certains déchets. Ce ne sont pas les plus dangereux, mais ils représentent 20% des conteneurs destinés à Bure. On les appelle les colis bitumés. Il s'agit de boues radioactives conditionnées dans du bitume. L'ASN ne peut donc pas exclure un scénario catastrophe, la propagation d'un incendie dans les galeries souterraines de Cigéo. Elle propose deux solutions. Soit les colis bitumés sont reconditionnés par les producteurs de déchets nucléaires, CEA, Areva ou EDF, soit il faut revoir la conception du centre de stockage. Selon l'ANDRA, l'agence nationale qui élabore Cigéo, l'avis du gendarme du nucléaire est positif. La question des colis bitumés n'est pas bloquante, dit l'ANDRA, pour déposer la demande d'autorisation de création de Cigéo en 2019.
Édouard Philippe poursuit, lui, ses consultations sur Notre-Dame-des-Landes. Il a reçu cet après-midi le patron de la région Bretagne, favorable au projet comme son prédécesseur Jean-Yves Le Drian.
Comment pouvait-il en être autrement, Sébastien ? Un arbitre qui tacle un joueur avant de l'exclure ne pouvait pas rester sur le terrain.
Tony Chaperon, qui officiait hier soir sur la pelouse de Nantes PSG, écope à son tour d'un carton rouge. Il est écarté jusqu'à nouvel ordre par la fédération et il sera convoqué par la commission de discipline de la Ligue. Tony Chaperon s'excuse auprès du joueur Diego Carlos pour un geste maladroit et inapproprié. L'exclusion du défenseur de Nantes est annulée et il pourra donc jouer mercredi à Toulouse. Mais le mal est fait selon l'ancien arbitre Lionel Schneider et le geste de Chaperon symbolise selon lui la déliquescence de l'arbitrage français. Jérôme Val l'a eu au téléphone.
Ce geste ternit encore un peu plus l'image de l'arbitrage français, qui n'est pas au meilleur de sa forme depuis quelques années. Le dernier représentant français dans une commission d'arbitrage à la FIFA est Michel Vautreau. Depuis, le déclin s'est amorcé. On touche le fond actuellement. Aucun représentant français à la commission d'arbitrage de la FIFA, donc depuis Michel Vautreau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la représentativité de l'arbitrage tricolore en prend un coup. Des erreurs d'arbitrage, on en retrouve à la fois en Espagne, en Allemagne, en Italie, en Angleterre. Ça n'est pas propre au championnat de France de Ligue 1. On ne peut pas être optimiste aujourd'hui. Quand on fait le constat aujourd'hui qui est accablant, qui est terrible, il faut revoir la politique aujourd'hui qui est menée par le comité exécutif de la Fédération. Je crois que la réforme de l'arbitrage voulue par Noël Le Graët en 2013, c'est une montagne qui a couché d'une souris. Et aujourd'hui, on en paye le prix fort.
Luc Apouille, décidément maudit à l'Open d'Australie. Cinquième participation et cinquième élimination dès le premier tour. Le nordiste s'incline face au 117e mondial. Tsonga, Simon et Cornet sont qualifiés en revanche pour le second tour. Au chapitre mauvaise perf encore, Yann Guichard qui dématte une heure après avoir quitté Brest. Le skipper et ses 11 membres d'équipage partaient pour tenter de décrocher le trophée Jules Verne, le tour du monde à la voile. Détenu depuis un an ce record par Francis Joyon et ses marins en un peu plus de 40 jours. On termine avec la mort de Dolores O'Riordan, décès soudain à Londres et 46 ans de la chanteuse des Cranberries. Zombie, l'un des tubes du groupe irlandais Les Cranberries. Triste. La chanteuse Dolores O'Riordan, qui vient de disparaître, était en session d'enregistrement à Londres, nous dit-on. Quant à Étienne Dao, rien à voir, il recevra lui une victoire d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Ce sera à la prochaine cérémonie le 9 février.
Merci beaucoup Sébastien Paour, on se retrouve demain bien sûr. Le 18-20 continue sur France Inter avec le téléphone sonne et le Parti Socialiste a-t-il une boussole? C'est la question que nous posons ce soir, 01 45 24 7000. Vos questions, vos remarques, vos avis. La météo tout de suite.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale.
Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Élodie Calac, attention au vent.
Oui, demain, ça soufflera fort partout, des rafales jusqu'à 70-90 km à l'heure, un cran au-dessus en montagne. La Corse, elle, est en vigilance orange. Prudence, le vent, il sera violent jusqu'à 130 à 150 km à l'heure, plus sur les caps la nuit suivante. Sur le sud-ouest, des pluies éparses, du Limousin vers le Massif central, les Alpes et le Jura, de bonnes pluies. Même chose pour le nord-est le matin, suivi de giboulées. Il neigera en montagne autour de 1000-1200 mètres, de la neige en abondance d'ailleurs sur les Alpes. Attention aux avalanches. Entre la Normandie, le centre, la région parisienne, le nord de la Seine, ce sera instable avec des averses, parfois un coup de tonnerre, du grésil. Et on trouvera plus d'éclaircies en allant vers le nord-ouest et la Méditerranée.
Quelques températures pour la route ?
Plutôt douces ces températures, 3 à 11 degrés le matin. L'après-midi, 8 à 12 degrés sur les régions du nord, 11 à 14 en allant vers le sud et jusqu'à 17 degrés pour la Méditerranée.
Merci beaucoup, Élodie Calac.